Amnesty International est un mouvement mondial fort de 10 millions de membres et de sympathisants dans le monde pour la défense et la promotion des droits humains.
Nous nous appuyons sur la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et sur les traités internationaux.
Vous pouvez nous rejoindre et signer nos pétitions sur amnesty.fr ou en creuse@amnestyfrance.fr au 05 55 64 26 84.
On se bat ensemble,
on gagne ensemble.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de Radio Vassivière. Aujourd'hui, un nouveau rendez-vous avec Amnesty International. J'accueille Dominique Duranton, Sabine Kiefer. Bonjour.
Bonjour Nini.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler du conflit qui se déroule en Israël, à Gaza et en Cisjordanie. Et on va parler des propositions d'Amnesty International.
Et on va peut-être d'abord faire un peu de vocabulaire qui est très important.
On va commencer alors. Amnesty International n'utilise pas les termes terrorisme, mais pourquoi ?
Il y a tout simplement parce que la boussole d'Amnesty International, c'est le droit international. Et c'est valable absolument dans toutes nos actions d'Amnesty. Et pourquoi pas le terme terrorisme ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de définition de terrorisme au droit international. Il n'y a pas de définition unanimement consacrée. Et donc la politique d'Amnesty International est d'éviter de qualifier un groupe de terroristes, sauf lorsque nous citons d'autres sources, par exemple les documents des Nations Unies. Alors le fait que le terme groupe terroriste ne fasse pas partie de notre vocabulaire ne diminue en rien notre condamnation sans réserve des crimes commis par les groupes armés palestiniens, notamment le Hamas, lors de l'attaque du 7 octobre. Les crimes commis par ces groupes armés relèvent de crimes de guerre et nous avons appelé à une enquête de la Cour pénale internationale afin que les auteurs répondent de leurs actes. Traiter l'un ou l'autre groupe armé de terroristes ou leurs actes de terroristes n'entraîne pas de sanctions internationales, vu que le terme n'existe pas en droit international. Et donc, nous employons les termes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui permettent de faire en sorte que les gens qui en sont les auteurs soient jugés et qu'il n'y ait pas d'impunité. Et ça, c'est aussi notre boussole. Et s'il existe un large consensus sur le fait que certains types d'actes constituent du terrorisme, au-delà de ce noyau d'accord, il existe une profonde controverse sur les limites extérieures du concept de terrorisme. Et les recherches d'Amnesty International montrent que certains gouvernements invoque des définitions larges du terrorisme pour réprimer l'opposition politique, ainsi que la liberté légitime d'expression, d'association, de réunion et d'autres droits humains. Et par exemple, en Égypte, 60 000 prisonniers sont des prisonniers politiques en fait, et ils sont nommés terroristes par le gouvernement. Les Tchétchènes ont été aussi écrasés par la Russie, au nom du terrorisme. Donc il faut faire très attention. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles Amnesty International a choisi de ne pas adopter de définition spécifique du terrorisme et d'éviter de l'employer. Et effectivement, celui qui est un terroriste pour certains est un combattant de la liberté pour d'autres.
On va parler de crimes de guerre.
Oui, alors le crime de guerre, là, est défini par le droit international et donc nous l'employons. Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire définies par les conventions de Genève et de La Haye de 1949. Il s'agit de crimes commis à l'encontre de civils à l'occasion d'un conflit armé. Ce sont les attaques délibérées contre les civils, la torture, le meurtre, les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, les pillages et les destructions de biens civils, la prise d'otages ou les violences sexuelles. Un crime de guerre est une violation grave du droit international humanitaire pour laquelle les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international.
Et du coup, les crimes contre l'humanité ?
Alors, définis aussi par le droit international, tandis que le crime de guerre est toujours commis dans un contexte de conflit armé, l'infraction de crime contre l'humanité, elle, s'applique également en temps de paix. Un acte est qualifié de crime contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute une population civile. La définition de crime contre l'humanité englobe, entre autres, les disparitions forcées, les homicides, la réduction en esclavage, la déportation et le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou toute autre privation de liberté physique, le viol, l'esclavage sexuel ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.
Et comment nous pouvons définir un crime de génocide ?
Alors le crime de génocide est aussi défini par le droit international et il est commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide relèvent tous les trois du droit pénal international. La Cour pénale internationale a été créée spécialement pour avoir à juger les auteurs de tels crimes.
Enfin, peux-tu préciser ce qu'on appelle les lois et coutumes de la guerre ?
Oui, toute partie au conflit a l'obligation, ça peut paraître bizarre, a l'obligation de respecter les lois et coutumes de la guerre, c'est-à-dire le droit international humanitaire, DIH. Le droit international humanitaire est l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés, à protéger les populations civiles. Il se trouve dans les quatre conventions de Genève de 1949, auxquelles la quasi-totalité des États adhèrent de nos jours. Donc c'est surtout un droit qui est mis en place pour protéger au maximum les populations civiles.
Donc dans ces conflits Israël-Gaza, qu'est-ce que dénonce Amnesty International ?
Eh bien, toutes les infractions, bien sûr, au droit que l'on vient de citer. Alors, c'est les exécutions sommaires de civils qui ont eu lieu dans le sud d'Israël, la mort de 1200 personnes et aussi la prise d'otages, bien sûr, qui a eu lieu, des otages qui ont été emmenés à Gaza par les troupes, par les groupes armés du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Et tout ceci constitue, bien sûr, des crimes de guerre.
Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty, a pris position en disant « Massacrer des civils est un crime de guerre et rien ne saurait justifier ces attaques répréhensibles. »
Alors d'autre part, nous dénonçons le blocus illégal de Gaza imposé depuis 16 ans par Israël, renforcé pour devenir un siège total, mettant en danger la vie de milliers de civils, je dirais même pratiquement de millions, puisqu'il y a 2 300 000 Palestiniens qui vivent à Gaza, en les privant d'eau, d'électricité, de médicaments, des biens essentiels à leur survie, ce qui est interdit par le droit international. Et je me permets d'ajouter que ce matin, j'entendais que l'ONU s'est élevée et a lancé vraiment une alerte par rapport au manque d'eau et d'électricité en ce qui concerne tout le sud de Gaza. Alors nous dénonçons aussi l'ordre d'évacuation du nord de la bande de Gaza vers le sud, y compris les hôpitaux, qui a été donné le 13 octobre par l'armée israélienne. Cet ordre équivaut à un transfert forcé de population civile, ce qui constitue une violation du droit humanitaire international. Nous dénonçons l'impossibilité de mener des enquêtes sur les crimes graves menés à Gaza. Nous dénonçons tout ce qui s'apparente à une punition collective, ce qui constitue en soi un crime de guerre.
Les terribles massacres de civils israéliens et autres graves exactions perpétrées par les groupes armés palestiniens ne dispense pas Israël de se conformer à ses obligations de respecter le droit international humanitaire et de protéger les populations civiles. Les sanctions collectives infligées aux civils de Gaza ne rendront pas justice aux victimes des crimes de guerre commis par le Hamas et d'autres groupes armés. C'est encore une position d'Agnès Callamard.
Sabine, Dominique, je vous propose de lister ce que demande Amnesty International.
Donc nous demandons un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties afin de mettre fin aux crimes de guerre, de protéger les civils et de faire en sorte que l'aide humanitaire puisse parvenir à Gaza.
Nous demandons aux autorités israéliennes ainsi qu'aux groupes armés palestiniens de respecter strictement le droit international humanitaire.
Nous demandons à la communauté internationale de tout mettre en œuvre pour que les parties au conflit respectent le droit international humanitaire, assurent la protection de tous les civils et exigent la libération de tous les otages.
Nous exhortons tous les groupes armés palestiniens de Gaza à libérer tous les otages civils immédiatement et sans condition et à ne plus procéder à des tirs de roquettes sans discernement sur Israël.
Israël doit se conformer aux principes du droit international, notamment aux principes de proportionnalité et de distinction. On ne doit pas imposer de sanctions collectives, se livrer à des représailles, ni déplacer des populations.
Nous appelons Israël à s'abstenir de mener des attaques illégales qui tuent ou blessent des civils et détruisent des habitations et des infrastructures de caractère civil.
Nous appelons Israël à faciliter la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et à laisser passer en toute sécurité les personnes blessées et les civils qui souhaitent fuir le conflit.
Le gouvernement israélien doit par ailleurs s'abstenir d'inciter à la violence et d'alimenter les tensions en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, et garantir la sécurité de tous les civils vivant sous son contrôle.
Nous demandons une nouvelle fois à Israël de mettre fin au blocus illégal de Gaza, instauré depuis 16 ans, ainsi qu'à tous les autres aspects du système d'apartheid israélien imposé à tous les Palestiniens et Palestiniennes.
Nous appelons à ce que les responsables des crimes répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes.
Et vous pouvez signer la pétition appelant à un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils sur le site amnesty.fr. Alors pour terminer, une bonne nouvelle. L'avocat égyptien défenseur des droits humains, Mohamed El Bakr, est arrêté arbitrairement en 2019, a été libéré le 20 juillet. Il a déclaré « Les membres d'Amnesty ont fait bien plus que ce à quoi je m'attendais. Je n'oublierai jamais leur soutien. » Mohamed El Bakr fait partie des 10 jours pour signer de 2019.
On se bat ensemble.
On gagne ensemble. Vous pouvez nous rejoindre, groupe Creuse, à l'adresse suivante, creuse@amnestyfrance.fr ou au 05 55 64 26 84.
Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les rendez-vous avec Amnesty sur notre site internet. Vous pouvez podcaster et réécouter cette émission sur radioacyber.com. Dominique, Sabine, à très bientôt pour une prochaine chronique.
À bientôt, Nini.
À bientôt, merci.
Et merci.
Merci à vous.
Amnesty International est un mouvement mondial fort de 10 millions de membres et de sympathisants dans le monde pour la défense et la promotion des droits humains.
Nous nous appuyons sur la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et sur les traités internationaux.
On se bat ensemble, on gagne ensemble.